RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Un excellent dimanche avec RMC. Vous le savez, jour électoral et à partir de 8h sur RMC, émission spéciale électorale et législative avec Chloé Cambrelin et Thomas Chupin. Ce qui fait qu'on ne retrouvera pas notre rendez-vous auto exceptionnellement. Pas cette semaine et non plus la semaine prochaine puisque vous le savez, ce sera le second tour de ces élections législatives dimanche prochain. D'ici là, bien sûr, votre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Laetitia, on va parler maintenant de la menace de la rage qui, alors même si effectivement elle a quasi disparu dans notre pays, il faut s'en méfier malgré
tout. Elle a disparu, on est indemne de la rage depuis 16 ans maintenant, hein, déclaré officiellement. Mm-hmm. Mais le risque est toujours là et nous sommes avec le docteur Alain Guignard qui est vétérinaire inspecteur au ministère de l'Agriculture. Bonjour Alain, merci d'être avec nous.
Bonjour Laetitia, bonjour François,
bonjour Alain. À tous.
Alors voilà, elle a été éradiquée la rage en France dans les années 90 et pourtant encore aujourd'hui, une personne décède de rage toutes les 10 minutes dans le monde.
C'est incroyable. Hein,
c'est une zoonose.
Une personne, pas un animal.
Une personne, parce que c'est une zoonose, c'est-à-dire que c'est une maladie transmise de l'animal à l'homme.
D'accord.
Et quand elle est transmise à l'homme et que les symptômes se déclarent chez l'homme, la personne meurt, on n'a pas d'antidote, on va dire, de cette maladie horrible. Alors, Alain, où sévit-elle et comment se transmet-elle justement à l'homme ?
Bien, c'est une maladie qui existe dans la plupart des pays du monde, à part quelques pays comme d'Europe de l'Ouest, mais c'est une maladie qui existe pratiquement dans tous les pays sauf en Antarctique. 90% des pays sont atteints.
En Antarctique, il fait trop froid, c'est ça ?
Oui, voilà.
Ça doit être ça. Et comment l'homme, parce qu'on a parlé d'une personne décédée de la rage toutes les 10 minutes, quel est le mode de contamination ?
Eh bien, 99%. Des contaminations humaines sont liées à des morsures de chiens.
De chiens.
Ah oui.
Et ce sont essentiellement les enfants d'ailleurs, hein, les jeunes enfants qui sont les plus atteints parce que ils n'osent pas dire qu'ils sont vaccinés, ils ont peur des piqûres, etc. Et ils ne sont pas soignés et du coup ils meurent. Et c'est une maladie absolument horrible et comme vous l'avez fort justement indiqué, c'est une maladie qui est mortelle systématiquement.
Systématiquement.
C'est-à-dire, dès qu'il y a les symptômes
c'est déjà trop tard.
Exactement.
On n'a pas de traitement encore aujourd'hui efficace.
Non, la seule possibilité, c'est de se faire vacciner immédiatement après la contamination, mais avant l'apparition des symptômes.
Oui, voilà. ce qui est difficile, parce que tant qu'on n'a pas de symptômes, on ne sait pas qu'on est, on est contaminé, c'est ça le problème.
Mais en revanche, on sait qu'on est contaminé si on a été mordu ou griffé par un carnivore
enragé.
Ou en tout cas suspect de l'avoir été.
D'accord. Et combien de temps met la maladie avant de se développer pour qu'on ait des symptômes ?
Chez l'homme.
C'est une très bonne question. Et ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais habituellement, c'est de l'ordre de quelques semaines.
D'accord. Ouais.
Donc on a le temps, une fois qu'on a été mordu par un animal inconnu, ou en tout cas suspect, on a le temps d'aller...
Oui, de se faire vacciner.
Il faut pas tarder, bien sûr. Et si
on se vaccine, les chances de guérison sont importantes ?
Ah oui, une fois qu'on est vacciné, on a quasiment aucune chance d'attraper
la maladie. D'accord.
C'est vrai. Alors, il existe un vaccin contre la rage, on vient d'en parler. On peut vacciner nos animaux, chiens, chats, furets.
Oui.
Mais, alors, qu'est-ce que dit la loi ? Est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire ? Dans quelles conditions il faut absolument vacciner nos animaux contre la rage ?
Eh bien, tant que l'on reste en France, la vaccination n'est pas obligatoire. Elle est conseillée, mais elle n'est absolument pas obligatoire.
Alors qu'avant, elle était obligatoire. Hein.
Tout à fait. Et puis, alors quand on voyage, là, c'est obligatoire.
Dès qu'on passe les frontières, même si on va en Suisse ou en Belgique où il n'y a pas la rage.
Oui, exactement. Dès l'instant où on voyage au sein de la communauté européenne, la vaccination est obligatoire. Et a fortiori, quand on voyage dans des pays qui sont ce qu'on appelle les pays tiers à la communauté européenne.
Alors, si on veut se rendre... avec son chien, ou son chat d'ailleurs, dans un pays où sévit la rage, parce que là, on parle, Belgique, Suisse, il n'y a pas la rage, mais par exemple, en Afrique du Nord, là, il faut non seulement qu'il soit vacciné contre la rage, mais il y a d'autres modalités aussi.
Oui, tout à fait. Alors déjà, on va rappeler les conditions de validité de la vaccination rage. Alors, c'est basé sur, bien sûr, des éléments scientifiques, mais qui ont été formalisés, standardisés pour des raisons réglementaires. Donc, pour qu'un animal soit vacciné contre la rage, il faut qu'il soit déjà identifié, donc c'est maintenant la puce. Ensuite, il faut que l'animal soit titulaire d'un passeport. Et il faut donc bien sûr qu'il soit vacciné contre la rage. Et le vaccin n'a de sens que s'il a été administré au-delà de l'âge de 12 semaines. Mmh. Et pour une primo-vaccination, qu'il a été réalisé depuis au moins 21 jours. C'est-à-dire que au minimum, pour qu'un chien soit valablement vacciné, il faut qu'il ait 12 semaines plus 21 jours de délai d'activité.
Ce qui veut dire quand même que si mon chien ou mon chat, même s'il a 12 ans, je le vaccine contre la rage aujourd'hui, il n'a jamais été vacciné,
oui.
Je peux pas passer la frontière demain matin.
Non.
Il faut que attendre 3 semaines.
Exactement.
Voilà, pour
tout
que le vaccin soit valable.
C'est-à-dire que immunitaire, c'est ça.
Voilà,
c'est
exactement. Ça. Et ça veut dire que quand même, par exemple, si on prend l'avion, même si je prends l'avion pour aller en Suisse, hein, je reviens tout seul en Suisse,
oui.
Mais bon, très près,
oui,
je veux
oui,
dire.
Oui.
On voulait aller souvent en Suisse.
Oui,
c'est
pas
bon.
Non, c'est pas, on parlait de la Suisse tout à l'heure,
ouais,
mais
ouais.
C'est
un beau pays.
C'est un beau pays.
C'est vrai, c'est un beau pays.
Je m'y rends, voilà, régulièrement.
Les banquiers sont ouverts le dimanche. Mon producteur nous l'a signalé tout à l'heure.
C'est peut-être pour ça que je fais y aller justement. Ça veut dire qu'on peut me refuser d'embarquer avec mon chien ou mon chat dans l'avion,
oui.
Parce qu'il n'est pas correctement vacciné contre la rage. C'est vraiment
exactement.
Très important.
Absolument.
Alors, pour d'autres pays où là, vraiment, sévit la rage, il y a d'autres modalités.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, pour les pays qui sont hors communauté européenne, il y a deux catégories de pays. Il y a des pays dérogataires et puis les autres. Alors, les autres pays qui sont les plus... donc, ce sont des pays au sein desquels... Le risque rage n'est pas maîtrisé, et bien pour ces pays-là, il faut en plus faire une sérologie.
C'est-à-dire une prise de sang,
voilà,
pour
une...
vérifier si on a des anticorps, enfin que l'animal a des anticorps qui le protègent de la rage.
Voilà, oui. Exactement. Et alors ça, c'est extrêmement contraignant, puisque la prise de sang doit être réalisée au minimum un mois après la vaccination, déjà, et elle doit être réalisée au moins 3 mois avant le voyage.
Ah oui.
Ça
donc
veut
là,
dire
c'est
mois.
C'est cuit pour aujourd'hui là.
Ah là, oui, oui.
Et
voilà.
Si on part en vacances là.
Ah ouais, il faut partir en octobre.
Voilà.
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 Alors ces pays, ben c'est les pays effectivement pour lesquels le risque rage n'est pas maîtrisé.
C'est-à-dire.
Ben, c'est la plupart des pays africains ou les pays d'Asie.
D'accord. Alors.
La plupart des pays africains.
Oui.
D'accord.
Alors,
même l'Algérie, le Tunisie, Maroc, tout ça.
En particulier les pays du Maghreb.
Du Maghreb, d'accord.
Là, tout à l'heure, Laetitia disait que la France est indemne de rage, tout à fait, mais les derniers cas de rage qui ont été décelés en France, à chaque fois, c'était des animaux qui avaient été ramenés du Maroc.
D'accord.
Alors,
et les dom-toms,
voilà.
Par exemple, il y a des risques?
Non, il n'y a pas de risque particulier.
Non.
Moi,
j'encourage
toujours les gens qui voyagent à faire vacciner leurs animaux parce que au cours d'un voyage, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
Bien sûr.
Mais en tout cas, au niveau des dom-toms, la vaccination rage n'est pas obligatoire, sauf pour la Guyane.
Ah.
Oui. Voilà.
La Guyane, d'accord.
Alors que là-bas, il n'y a pas la rage vulpine hein, du renard, mais il y a la rage des chauves-souris.
Exactement, c'est pour cette raison.
Qui est aussi dangereuse, aussi...
Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de rage transmise par les chauves-souris chez l'homme? Pas beaucoup, hein, il me semble. Hein.
Je ne sais pas vraiment vous répondre avec précision, mais enfin, il y en a peu, mais enfin, le risque existe en tout cas. Et le risque existe, mais la rage étant une maladie mortelle, on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque.
Exactement. On rappelle que cette maladie est mortelle. Quels sont les symptômes de la rage?
Chez le chien?
Alors, chez le chien et chez l'homme?
Alors, chez le chien.
Alors, effectivement, c'est un petit peu différent. Chez les animaux, on a l'habitude de dire tout est rage, rien n'est rage. C'est-à-dire que souvent, on a l'image de la rage du chien qui devient féroce, qui devient agressif. Et
avec
puis,
la bave.
Avec la bave et qui mord sur tout ce qu'il peut. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la rage furieuse. C'est la rage la plus connue et la plus facile à déceler.
Donc, le chien est très agressif.
Ouais, exactement.
D'accord. Un voilà. Changement de comportement, en fin de compte.
Oui,
c'est ça,
voilà.
C'est ça. Mais il y a des chiens qui ont des symptômes très frustres et qui sont tout aussi dangereux. Et c'est même encore pire parce qu'on se méfie pas.
Eh oui. Alors, on parlait de...
Et pour
de...
les humains, pardon.
Pardon, oui, les humains.
C'est la même chose?
Eh bien, non.
On ne mord pas,
mais en fait, c'est une méningo-encéphalomyélite, c'est-à-dire, en fait, c'est comme une méningite, c'est-à-dire, les personnes sont très malades avec une forte fièvre, et puis, en revanche, ils ont une hydrophobie, parce qu'il y a une paralysie de la mâchoire, et dès que les personnes voient de l'eau, ils sont complètement paniqués, mais moi, c'est
dingue, ça.
C'est dingue, c'est encéphalique, hein.
Et puis, donc, après coma, est mort, c'est ça?
Exactement, oui.
D'accord. On revient dans un instant, Laetitia. 7h20, on parle de la rage ce matin avec notre invité Alain Guignard. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, nous sommes de retour, 7h22, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. On évoque ce matin jusqu'à 7h30 la rage, Laetitia, avec Alain Guignard, vétérinaire. Alors c'est une maladie qui est effroyable, hein. On l'a évoqué avec vous, docteur. Laetitia, bon alors, il faut pas paniquer bien évidemment,
non, hein,
pas céder à la psychose, parce que vous le disiez, la France est indemne de rage.
Oui,
mais tout, il faut prendre quelques précautions
et
si on voyage avec son animal
exactement.
En dehors de la France.
Parce qu'on disait justement que les cas de rage avaient été importés du Maghreb. Alors justement, parce que c'est vrai, on peut aller dans un autre pays où sévit la rage, être voilà, avoir un petit chaton, un petit chiot et se dire oh bah il est trop mignon, je le ramène en France. Alors justement, quand on veut ramener un animal, voilà, un chat ou un chien d'un pays à risque, quelles sont justement les modalités? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien c'est, à vrai dire, il faut mieux éviter.
Carrément.
Bon, carrément. Sinon, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut que l'animal, il faut le faire identifier, lui faire avoir un passeport ou l'équivalent, parce que le passeport européen n'existe pas forcément dans d'autres pays, mais enfin, il faut avoir un équivalent, un certificat sanitaire vétérinaire, et surtout, il faut que l'animal soit vacciné avec un vaccin en cours de validité, c'est-à-dire il faut que l'animal soit âgé de plus de 12 semaines
et vacciné
depuis au moins 21 jours.
Ça veut dire si on va 10 jours au Maroc et qu'on ramène un chat,
voilà,
c'est pas possible, puisqu'il
c'est pas
sera,
possible.
Il sera pas,
po- c'est
donc,
pas possible.
Donc il vaut mieux éviter de le ramener.
Il faut éviter absolument, il faut pas se laisser attendrir. C'est triste, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de chats errants au Maroc en particulier,
bien
mais
sûr.
Il faut éviter, faut pas se laisser attendrir.
Et bien dire aussi que l'animal, même s'il n'a pas de symptômes, peut être enragé, transmettre la rage,
ouais,
quelques jours avant les symptômes de la rage, justement.
Exactement, c'est ça le piège, hein, quand on est dans un pays, enfin dans un pays étranger. Il faut éviter de toucher, de se faire griffer, de se faire lécher par un chaton ou un chien, même s'il paraît gentil, parce que il peut être en incubation et pendant cette période d'incubation, il peut transmettre la maladie. Donc si on a un contact avec un animal à l'étranger, le réflexe est d'aller voir, d'abord commencer par se laver les mains avec de l'eau et du savon très consciencieusement, parce qu'il n'y a pas que la rage qui peut être transmise, hein.
Oui, bien
sûr. Y a pas d'autres maladies mais plus qui sont bénignes, et puis dès son retour aller voir un médecin et puis aller consulter au centre anti-rabique de l'Institut Pasteur et se faire vacciner. C'est ce qu'il faut faire.
Justement, il y a une question d'un auditeur que j'avais reçu cette semaine, c'est Alain qui disait: ma fille a été mordue par le chien du voisin, a-t-elle pu attraper la rage? Comment savoir?
Alors, est-ce qu'elle a pu attraper la rage? Je dirais oui. Si c'est en France, c'est quand même très très peu probable.
Oui, si c'est le chien du voisin, en plus, c'est pas
voilà,
un chien errant.
C'est un chien qu'on connaît, donc le risque est infime. Mais enfin, comme la maladie est quand même mortelle, il y a des précautions à prendre. Et le seul moyen de s'en assurer, c'est de mettre l'animal sous surveillance, qu'on appelle une surveillance mordeur. L'animal doit être vu pendant 15 jours, enfin 3 fois à une semaine d'intervalle, J0, J7 et J14, par un vétérinaire, pour s'assurer que l'animal n'est pas malade de la rage. C'est-à-dire que s'il manifeste des signes suspects de rage pendant cette période de surveillance de 14 jours qui suit la morsure, si des signes apparaissent, eh ben, ma foi, le chien est enragé, il faut traiter la personne. Si aucun signe n'apparaît, eh ben, à ce moment-là, on est sûr que la morsure n'a pas pu être contaminante.
D'accord. Dernière question. Est-ce que je voyage pas avec mon chien, mon chat, est-ce que je peux vacciner, est-ce que je dois vacciner contre la rage?
Si, j'ai pas compris la question.
Je ne voyage pas avec mon chien ou mon chat, c'est-à-dire
je reste
en France, je ne passe pas les frontières. Est-ce qu'il y a un intérêt à le vacciner contre la rage?
Oui, il y a un intérêt parce que, moi je dirais, on ne sait jamais. Parce que maintenant, les gens voyagent pour un oui, pour un non. C'est facile de prendre l'avion, c'est facile de prendre la voiture. Donc si l'animal est vacciné, ben ma foi, on a anticipé et tout est possible.
Et ils peuvent éventuellement croiser un animal enragé aussi,
notamment,
qui revient de...
Notamment.
Merci beaucoup Alain, merci. Il est pratiquement 7h30, Laetitia, on revient après la météo et les infos. On va évoquer tout l'écosystème qu'on peut retrouver dans les aéroports, ça sera dans quelques minutes. Et puis cette histoire étonnante, 200 chats mystérieusement empoisonnés dans l'Aude. Après
oui,
la météo et les infos, à tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, Vos Animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour de ce week-end des experts, les animaux. Dans un instant, nous aurons Céline Rélan, Laetitia, qui habite à Saint-Pierre-la-Mer dans l'Aube et elle a perdu ses chats qui ont été empoisonnés. On va revenir sur cette histoire incroyable, visiblement.
Incroyable,
oui. 200 chats mystérieusement empoisonnés dans l'Aude. On va en parler dans un instant, mais auparavant, on va conclure notre sujet sur la rage qu'on évoque avec notre invité Alain Guignard depuis 7h avec Carole qui nous appelle au 3216. Bonjour Carole.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour Carole, bienvenue.
Bonjour, merci.
Alors vous partez en vacances.
Oui, c'est ça. Voilà, je suis de la Guadeloupe et en fait j'ai fait l'acquisition d'un petit bichon à poils frisés.
Oui.
Donc, il a tout juste un an. Il a eu un an là ce mois-ci. Et en fait, par rapport à la question, parce que Laetitia vous disait que même en étant dans la communauté européenne, il fallait absolument que le chien il soit vacciné. Sauf que, bon, ben, la Guadeloupe, ça, c'est quand même un département français. Je me posais la question, est-ce que il fallait quand même qu'il soit vacciné contre la rage pour partir en Guadeloupe?
Bonjour.
Non, bonjour.
Il n'est pas obligatoire de faire vacciner votre animal contre la rage pour aller en Guadeloupe. Moi, je vous encourage à le faire parce que c'est une sage précaution, mais réglementairement, ce n'est pas obligatoire.
Alors, il faut faire aussi attention à certaines compagnies aériennes qui demandent quand même la vaccination contre la rage.
D'accord.
Et c'est pas obligatoire, mais j'ai vu, enfin, d'expérience, que certaines compagnies aériennes peuvent le demander, parce que si peut-être des fois aussi elles font des arrêts dans d'autres pays, et ou tout simplement parce que bah elles considèrent qu'il faut vacciner l'animal contre la rage. Donc rapprochez-vous de la compagnie aérienne que vous allez prendre pour savoir s'il y a une obligation, parce que bien souvent elles veulent un passeport du chien, voilà, qu'il soit identifié, etc. Et parfois aussi qu'il soit vacciné contre la rage.
Bon, en fait, j'ai tout fait dans les règles. Hein. Il a son passeport, il est pucé, il est même tatoué, en fait. Mais j'en ai discuté bien avant avec le vétérinaire, à savoir quelles étaient vraiment les modalités par rapport au voyage. Mais par contre, ce problème de la rage, il m'en a pas parlé. Voilà. Moi, ce qui m'inquiétait plus, c'était plus la leptospirose, parce que c'est vrai qu'en Guadeloupe, ça sévit un petit peu.
Oui.
Mais la rage, non, il m'en a pas parlé.
Il y a d'autres maladies, c'est vrai. Il faut bien le vacciner, c'est sûr.
Oui,
bien
le
traiter, enfin, vous le savez.
Oui.
Et puis, voilà, et la rage n'est pas obligatoire. Mais certaines compagnies aériennes, c'est vrai, il faut faire très attention. J'ai découvert ça, qu'elles demandaient une vaccination contre la rage, même si c'est pas obligatoire.
D'accord.
Voilà, Carole.
Merci. Dans tous les cas, il faut que je le fasse rapidement, alors.
Ça serait bien. Puis après, il est protégé pour un an, c'est bien, quoi. Puis vous le faites tous les vaccins en même temps, faut le savoir aussi. Il n'y a pas besoin de faire un vaccin à part. Vous faites tout en même temps et au moins il est protégé.
Même si
merci.
Même si on l'a dit, évidemment,
bon,
on voit
voyage.
Vite qu'il n'y a pas de cadrage, hein, donc les risques sont quasi nuls, mais bon, c'est par précaution,
voilà. On
va dire. Laetitia, sujet... oui, pardon.
Oui, je voudrais ajouter quelque chose,
Alain.
Pour faire suite à ce que dit Laetitia, c'est que dans certains lieux privés, comme par exemple les terrains de camping, les centres de vacances, certains instituts... exige que l'animal soit vacciné contre la rage. Ce n'est pas une exigence réglementaire, je dirais, nationale, mais c'est une exigence locale du prestataire du terrain de camping. Donc, il faut toujours se renseigner avant de partir pour savoir quelles sont les exigences du lieu d'accueil de l'animal. Voilà.
Parfait. Merci.
Merci beaucoup, Alain.
Merci.
Laetitia, on enchaîne avec ce sujet étonnant.
Oui, ce fait divers, comme on dit.
200 chats aurait été mystérieusement empoisonné.
Voilà, ça se passe à Saint-Pierre-la-Mer, dans l'Aude, une station de balnéaire. Et nous sommes avec Céline, qui aimerait témoigner, puisqu'elle habite Saint-Pierre-la-Mer. Et elle a été aussi directement concernée par cette histoire de chat empoisonné. Céline, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes donc directement concernée, parce que vous avez perdu plusieurs chats. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Oui, ben j'ai perdu le premier chat donc le 23 du mois précédent, hein. Et donc on avait vu la journée, la soirée, et puis on est arrivé, on a vu donc ce premier chat sur les escaliers de ma terrasse, qui était allongé dans son vomi,
oui.
Rapidement transparent, et voilà, donc le premier, on n'a pas soupçonné, on ne savait pas du tout ce que c'était.
Oui, vous pensiez quelque chose d'accidentel, en fin de compte.
Bon, après, oui, ça peut arriver. Hein. Mmh. Donc, ça peut arriver. Un chat qui mange quelque chose qu'il ne faut pas, malheureusement, bon, c'est des petits animaux fragiles. Donc, on n'avait pas compris directement ce que c'était, bien que on trouvait ça quand même assez étrange, puisqu'il baignait dans un liquide transparent un petit peu, et c'était un peu bizarre. Mmh. Et puis après, au fur et à mesure, on a retrouvé les autres. Alors, on ne les a pas tous retrouvés, mais en tout, on a perdu 6.
Ah oui, c'est... Et alors, dans la ville, Saint-Pierre-les-Mers, il y a eu, on parle de minimum 200 chats empoisonnés. Hein. C'est l'association Protection et Défense des Chats Errants de Saint-Pierre-la-Mer qui le dit, ce qui est quand même énorme. Est-ce que ce sont des chats errants, des chats de propriétaires qui ont été empoisonnés ou les deux?
Bah, c'est les deux, hein, tout y passe. Hein. Y a aussi, on a découvert aussi dans les rues, en se baladant, des hérissons, des belettes, des ados. Et moi, j'ai plein de voisins qui sont en pleurs, hein, seulement dans mon quartier. Quand je découvre des gens d'autres quartiers, c'est la même chose. Alors depuis, je pense que ça doit même être plus, hein, parce que c'est par dizaines par jour.
Bah oui, c'est ça qui est, parce que ça continue, c'est ça que. Alors il y a une plainte qui a été déposée par l'association dont je viens de parler, par la mairie, hein, qui va vraiment voilà, et un particulier. Donc une enquête est ouverte. Hein, voilà, ils sont en train d'enquêter.
Oui.
Quelle est l'ambiance à Saint-Pierre-la-Mer? Est-ce que tout le monde regarde tout le monde? Est-ce que tout le monde, enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette ville après toutes ces disparitions?
Oui, tout le monde regarde et puis tout le monde est paniqué, tout le monde est inquiet, tout le monde a ses chats enfermés à l'intérieur. Et puis bon, c'est pas vivable au niveau des chats ni au niveau des maîtres, hein, parce que bon, on est quand même dans un village et les chats ils ont quand même l'habitude d'aller dehors. Ensuite, moi, mon voisin, il était en panique hier parce qu'il en a perdu aussi, je ne sais pas combien, et donc il en avait perdu 3. Bon, ils sont revenus, mais voilà, il était vraiment en panique. J'ai une autre amie qui est sur les Hauts de Saint-Pierre. Son chat est parti pas trop longtemps, comme à l'habitude. Elle était en panique. De toute façon, moi, c'est clair que... Bon,
tout le monde garde des chats à la maison, quoi.
Ah oui, à l'heure actuelle, je me dis, mais je ne sortirai plus jamais ou je déménage, quoi. Mais,
certaines personnes dans le village parlaient de déménager carrément.
Oui.
C'est incroyable, ça. Ouais. Alors, je sais que la Fondation 30 millions d'amis va se constituer partie civile, hein, pour appuyer toutes ces plaintes, hein, pour qu'il y ait vraiment un éclairage sur... Alors, on soupçonne voilà, qu'il y ait une personne qui est en cause. Parce
sûr.
Que c'est vraiment
des
empoisonnements. Il y a toujours les mêmes symptômes sur tous les chats. Donc, on pense un peu à un empoisonnement, bien sûr, intentionnel. Et je pense que chaque jour est quelque chose de difficile pour vous.
Et chaque jour, oui, parce que c'est, je vous dis, par moment, c'est par dizaines. Hier, je suis un peu moins sortie parce que je n'en pouvais plus d'entendre parler de ça. Donc, par contre, mon conjoint, on a quand même trouvé un de mort. Mais,
oui, c'est irrespirable.
Bon, en tout cas, merci Céline pour ce témoignage. On imagine la difficulté du moment pour vous. Alors, j'imagine que les autorités.
L'enquête a été vraiment ouverte, voilà, là, suite à toutes ces plaintes.
Ils trouveront en fait l'abruti qui fait ça.
Parce que faut savoir que c'est un poison, donc ça veut dire que ça empoisonne les chats, mais d'autres animaux
évidemment.
Aussi. Et faut penser aux enfants aussi
tout
dans le village.
Ouais.
Donc, et on imagine un petit peu la rumeur, ouais. Les choses qui se passent. Donc on reviendra dessus justement, on suivra cette enquête. Hein.
Merci beaucoup Céline, on revient dans un instant. Laetitia, alors un sujet un petit peu plus gai quand même, hein, parce que voilà, heureusement il n'y a pas que des drames. On va tout à l'heure découvrir les secrets des géants des mers à l'occasion d'un magnifique documentaire qui sera diffusé le mercredi 14 juin à 20h50 sur France 5. Et puis on s'intéressera aux aéroports. Figurez-vous que, se cache un écosystème étonnant dans les aéroports français. On va
sous
en parler.
Les avions.
Exactement. On va en parler dans un instant. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
8h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Je vous rappelle qu'à partir de 8h sur RMC, émission spéciale de la rédaction, émission spéciale élection législative, de 8h à 10h. Ensuite, vous retrouverez les GG du sport, ce qui fait que, exceptionnellement, il n'y aura pas de rendez-vous auto avec Jean-Luc Moreau en ce dimanche. Et ça sera le cas d'ailleurs aussi dimanche prochain, puisque dimanche prochain, ce sera le second tour de ces élections législatives. Laetitia, on va maintenant aller du côté des aéroports français.
Eh ben oui. Alors pas pour partir malheureusement.
Bah, ça va être bientôt le cas.
Mais
en tout cas, je vous le souhaite.
Pour s'intéresser aux animaux. Alors les animaux, les vrais, hein. Je ne suis pas les autres, dans les aéroports. Et nous sommes avec Julia et Roland Sêtre, qui sont vétérinaires de l'association Hop Biodiversité, qui une association qui veut évaluer et promouvoir la biodiversité sur les aires d'aéroports. Bonjour Julia et Roland.
Bonjour.
Bonjour à vous tous les deux. Alors, vous êtes vétérinaire et pendant des années, vous avez parcouru le monde à la rencontre des animaux sauvages incroyables pour les filmer, les photographier. Alors là, vous restez en France et vous vous intéressez à une faune inconnue, celle des aéroports français. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'animaux sur les aéroports français ?
Alors, il y a quelques animaux et nous, on s'intéresse à la biodiversité, hein, comme le nom de l'association l'entend. Et donc, la biodiversité, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est tout le vivant, y compris l'homme. Et nous, on travaille avec l'ensemble. Donc, on met en évidence, à travers nos travaux de sciences participatives avec les hommes des aéroports, les hommes et les femmes, bien sûr,
oui,
la réalité de la biodiversité présente sur les aéroports, ce qui inclut un certain nombre d'animaux, mais pas que.
Mais alors, ça veut dire, attendez, les aéroports, on sait que c'est un milieu bruyant, oui, dangereux,
peut-être même hostile pour,
polluant, voilà,
pour la faune et la flore.
Quels animaux peuvent bien vivre sur les aéroports ?
Alors, cette réalité très imagée, hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'on pense que, mais en réalité, il faut aller voir pour mettre en évidence concrètement ce qu'il y a sur les aéroports. Et justement, quand on va travailler, bon, c'est des zones de sûreté et de sécurité, les aéroports, il faut savoir qu'un aéroport, c'est des très grandes surfaces, que ces grandes surfaces sont composées à peu près à 70% d'espaces verts et que, vu du hublot, on peut avoir l'impression que ces espaces verts, c'est juste des pelouses que l'on entretient.
Oui.
Mais en réalité, ces espaces verts, comme ils sont laissés et ils sont gérés par eux-mêmes en grande partie à part les tontes, il n'y a pas de raison de produire sur un aéroport. Donc, par exemple, on n'a pas de traitement phytosanitaire ou à peu près pas, sauf dans les zones de balisage. On n'a pas d'insecticides, puisque là encore, il n'y a pas d'histoire de production de céréales ou autres végétaux agricoles.
Oui.
Donc en fait, c'est des espaces qui sont laissés assez tranquilles d'un point de vue écologique.
Il n'y a pas de chasseurs.
Il n'y
a pas de prédateurs. Hein. Enfin, je sais pas.
Alors, il y a des prédateurs, justement. Et on a un certain nombre de prédateurs, certains qui nous posent des problèmes pour le transport aérien. Hein.
C'est-à-dire
les grands rapaces, par exemple, ou les hérons. Cela pose problème. À l'inverse, on a des prédateurs qui sont des mammifères. On va avoir, par exemple, sur Orly, on a de la belette et on a du renard. Et ceux-là, eh bien, ils sont gérés de façon différente selon les structures. Mais la gestion que l'on promeut, c'est de laisser faire la nature sur le contrôle des prédateurs. Et que quand on a plus de prédateurs terrestres sur un aéroport qui, eux, rentrent peu en collision avec les avions, eh bien, on va diminuer la quantité de nourriture disponible pour les oiseaux qui, eux, posent des problèmes éventuellement en cas de collision. Et vous savez qu'on a des services dédiés sur les aéroports qui s'appellent la gestion du risque animalier,
oui,
qui vont faire de l'effarouchement,
mmh,
qui,
oui,
vont faire en sorte que les oiseaux qui puissent poser problème soient écartés des pistes pour pas qu'ils rentrent en collision avec les avions.
C'est-à-dire que votre rôle, c'est de mettre en avant ces prédateurs terrestres, comme par exemple les belettes ou les renards, qui, comme ils mangent des proies qui sont potentiellement des proies des oiseaux, diminuent le nombre d'oiseaux sur les aéroports, c'est ça ?
Absolument.
Ah oui, c'est un... Parce que, alors, en fin de compte, les oiseaux qui posent vraiment problème, c'est, qui entrent en collision avec les avions, ce, mmh, sont les grands oiseaux, alors ?
Non, tous les oiseaux potentiellement peuvent rentrer en collision avec les avions, mais on va avoir, par exemple, une abondance relative de rapaces.
Oui.
Et les rapaces, eux, rentrent assez facilement en collision avec les avions, surtout les jeunes.
D'accord.
Et plus, on imagine que plus les oiseaux sont gros, plus les dégâts sont importants. On
oui,
se rappelle de la catastrophe de l'Hudson River il y a quelques années à New York. Hein.
Alors là, justement, c'est le contre-exemple typique, puisque le Hudson, c'est un vol de d'oies migratrices qui sont passées au-dessus de la zone de décollage des avions. Et là, en fait, la gestion du risque ne pouvait rien y faire.
Oui.
Ils étaient à 600 mètres ou à 800 mètres d'altitude, et qu'il y en a deux qui ont été avalés, une oie qui a été avalée par chaque moteur, ce qui a éteint les moteurs. Mais bon, ça c'est un cas tout à fait exceptionnel, et je dirais qu'il est hors du périmètre de notre travail, puisque nous on travaille au sol, ou à proximité immédiate, et là on parle de migrateurs, donc ça pourrait arriver n'importe où quelque part.
Alors, vous savez, quand on parle des animaux dans les aéroports, on parle beaucoup des lapins. Et c'est vrai qu'on voit lapins. Il y en a beaucoup ou pas?
C'est une autre contre-vérité, on va dire. Tout le monde parle des lapins, parce que tout le monde, ou presque, en tous les cas, beaucoup de gens ont pris l'avion à Orly. Et il se trouve qu'à Orly, il y a une zone de l'aéroport qui a un sol très sablonneux, qui est extrêmement propice à l'installation des lapins. Et comme il n'y a pas tout l'écosystème naturel, je dirais, présent sur Orly, il manque des prédateurs, et que la nourriture est abondante et que le sol leur convient particulièrement, il y a une pullulation de lapins sur certaines zones d'Orly, et en particulier la zone où les avions attendent avant de décoller. Donc tous les gens qui sont passés par là ont vu les pullulations de lapins depuis le temps.
Mmh.
Et donc il y a cette image qui associe le lapin aux aéroports. Mais nous, on travaille avec 13 plateformes aujourd'hui, et sur les 13, il y en a deux où on voit beaucoup de lapins, c'est Orly et Charles de Gaulle. Mais même Orly, la zone des lapins, c'est même pas un quart de l'aéroport. Le reste, c'est très difficile de voir un lapin. Et donc sur nos 11 autres partenaires aéroports, qui sont répartis dans toute la France, on a des lapins à peu près partout, mais à peu près partout invisibles. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les pullulations. Et ça fait partie de notre travail, et c'est d'une part de mettre en évidence la biodiversité présente et qui est riche, que ça veut dire qu'on a quand même des écosystèmes qui sont fonctionnels, mais en plus de tenter avec les responsables d'aéroports de rééquilibrer un peu cette nature pour que justement les pullulations diminuent et donc le risque diminue.
Merci beaucoup.
Parfait,
Roland
parfait, merci. Donc je rappelle que vous êtes vétérinaire de l'association, Hop Biodiversité. On mettra le lien sur la page Facebook. C'est très intéressant. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur les aires d'aéroport. Il y a énormément de choses, même des abeilles. Il y a beaucoup d'insectes. Mmh. Voilà, c'est tant mieux.
Et après donc les oiseaux, mais aussi les lapins, place maintenant à des mammifères un petit peu plus gros qui sont dans les mers.
Oui.
À la découverte des secrets des géants des mers, Laetitia.
Voilà, c'est une série documentaire qui commence mercredi dans 3 jours à 20h50 sur France 5, La Planète des Géants. Et nous sommes avec François Sarano, qui est océanographe et ancien compagnon du commandant Cousteau et co-auteur de cette série avec Guillaume Vincent. François, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, cette série documentaire, j'ai vu vraiment, elle fait un bien fou, parce que on a l'impression que vous nous emmenez plonger avec les géants des mers, c'est-à-dire les baleines, les cachalots, les dauphins, les orques, les baleines. Voilà, comment est née cette idée de série documentaire sur ces géants des mers?
D'abord, ce sont les géants des mers, les baleines, les cachalots et les orques qui nous invitent à découvrir leur monde. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que lorsqu'on plonge avec respect au milieu de ces animaux, ils nous considèrent comme l'un des leurs. Et à ce moment-là, tout change, comme l'ethnologue, immergé au milieu de la société que l'on veut étudier, il nous invite à partager des moments. Et cette idée, elle est née, avec Guillaume Vincent, de la remarque qu'on étudiait souvent ces animaux de l'extérieur. Et nous avons voulu, avec respect et patience, prendre le temps d'être acceptés. Et c'est pour ça que nous avons pu vivre au milieu des cachalots que nous connaissons personnellement. Parce que ces animaux-là ont des personnalités propres. Et nous les avons vus grandir au cours des années. Et nous avons vu émerger les personnalités de certains d'entre eux. Nous les avons vus grandir comme nous avons vu grandir nos enfants. C'est pour ça que tout d'un coup, nous avons compris leur société formidable. Et en particulier celle des orques où on voit les grandes femelles, les matriarches, apprendre, il y a des cultures qui se développent, apprendre à leurs jeunes le langage, apprendre à leurs jeunes la manière de chasser, et donc comprendre que ces sociétés-là étaient vraiment proches des nôtres.
Alors ce qui est incroyable, c'est que vous nagez presque au contact des baleines, des cachalots, etc. Les images sont époustouflantes. On a même l'impression que vous êtes tout petit, mais alors vous dansez avec les baleines. Comment vous avez pu vous approcher d'aussi près de ces animaux? On a l'impression que c'est eux qui sont intéressés par vous, qui sont curieux quelque part.
C'est exactement ça. Je ne me suis pas approché des cachalots. Ce sont les cachalots, et en particulier l'un d'entre eux, un jeune mâle de 5 ans, enfin il avait 5 ans lorsque nous avons tourné, qui s'appelle Elliot, qui est particulièrement curieux et qui est venu m'inviter. C'est lui le maître du jeu. C'est à sa demande que je suis rentré au milieu du clan. C'est ça qui est extraordinaire. Nous n'avons pas forcé. Nous sommes restés extérieurs, nous avons attendu, avec respect et avec patience, que ce soit eux qui nous invitent.
Et ils n'ont pas peur de l'homme ?
Alors non, ils n'ont pas peur de l'homme, puisque nous allons dans l'eau avec bienveillance. Ils n'ont plus l'habitude d'être chassés. Hein. La chasse aux grands cétacés est arrêtée depuis les années 80. En tout cas, les cachalots, les baleines à bosse, et dans ces régions-là où nous allons, il n'y a plus de chasse. Par conséquent, on retrouve ici ce qu'était la relation originelle de l'homme avec la nature. C'est à terre qu'on l'a perverti. Mais dans les océans, notre dernier territoire sauvage, on peut encore approcher les animaux sauvages sans qu'ils en aient frais. Et c'est à leur demande, c'est eux qui sont curieux. Il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a que nous qui nous intéressons aux autres, à l'altérité et aux autres espèces. Pas du tout. Ces espèces-là, aux capacités cognitives extraordinaires, elles aussi s'intéressent aux autres espèces, et en particulier aux plongeurs. Et c'est à leur demande, encore une fois, que nous sommes rentrés dans leur famille.
Rendez-vous donc mercredi 14 juin à 20h50 sur France 5 pour
alors
ce documentaire.
Voilà, allez vraiment regardez ce documentaire, vous plongez vraiment avec François Sarano au plus près de ces géants des mers. C'est merveilleux, des images époustouflantes, vraiment, en plus française, hein, c'est un et documentaire français. Donc merci François Sarano. Rendez-vous mercredi 20h50 France 5.
Et sur RMC samedi prochain 6h-8h, dimanche prochain pardon, 6h-8h, Laetitia Barlerin sera là. Laetitia, à dimanche.
Bon dimanche à tous, voilà. Allez voter bien sûr.
Et dans un instant sur RMC et les émissions grand rendez-vous concernant les élections législatives entre 8h et 10h. Je vous souhaite un très bon dimanche.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.